Et aujourd'hui, on est à Roubaix dans le Nord.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nous poursuivons notre voyage à travers la France. Hier, vous étiez à Las, dans le Béarn, avec Aurélie Fez. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nord, à Roubaix, à 15 km de Lille. La première chose qui frappe quand on arrive ici, ce sont les immenses cheminées d'usines qui s'offrent à nous. Car au 19e siècle, Roubaix était la capitale du textile avec ses 1000 cheminées. Sauf qu'aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une dizaine et qu'aucune fumée ne s'en échappe. La crise les a éteintes à jamais et a fait de Roubaix l'une des villes les plus pauvres de France. 44% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais pour les Roubaisiens, il fallait à tout prix sauvegarder une partie de leur patrimoine. Les friches industrielles ont donc été transformées en lieux culturels et touristiques. Le passage obligé quand on vient à Roubaix, c'est l'ancienne piscine municipale et son style art déco, réhabilité en musée de beaux-arts. Il y a aussi son canal, imaginé pour acheminer l'eau et le charbon pour les industries. Il a été laissé à l'abandon dans les années 70. Il était prévu de le recouvrir de béton et d'en faire un périphérique, mais l'entêtement de certains habitants l'a sauvé. Ils ont obtenu son maintien et sa réouverture pour la plus grande joie des plaisanciers et des touristes. Avec tous ces vestiges émouvants de son passé industriel, Roubaix est une ville chaleureuse, une ambiance qu'on retrouve ici au marché du quartier de l'Épeule, un marché très populaire. À mes côtés, Fatima Sarraoui. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites vos courses ici, Fatima ?
C'est un rituel. Je viens voir mes commerçants, je fais mes courses, je rencontre mes amis, mes voisins. On peut se dire bonjour, on peut discuter, on peut dire ce qui va pas, mais vraiment, voilà quoi.
Fatima, aujourd'hui, vous avez mis votre plus belle robe d'ailleurs, une robe toute colorée, il y a du rouge, il y a du violet, il y a des bandes noires.
Je n'ai pas que celle-là comme belle robe.
Vous êtes coquette ?
Ouais, j'essaie d'être coquette par rapport à mon âge et par rapport en tant que femme déjà. J'aime bien les bandes. Je me dis, il faut que je reste dans la ligne toujours. Il ne faut pas que je dévie ni à gauche ni à droite. Mon cœur, il est au centre et les lignes, pour moi, c'est très important. J'ai besoin de ces couleurs, en fait, pour vivre. Et Roubaix, c'est aux couleurs de ma robe, on va dire aujourd'hui, tout simplement.
Bah, c'est très beau ce que vous dites. Merci. C'est comme votre robe et vous.
Ouais, merci, c'est gentil.
Et là, on est devant des commerçants qui vendent des poulets rôtis. Vous venez acheter votre poulet ici?
Oui, je vais acheter mon poulet ici, mes courses, tout ce qui est... Voilà, c'est un traiteur, en fait, Omar et Dabia.
Bonjour.
Bonjour.
Vous venez dans ce marché depuis combien de temps?
1989.
Plus de 30 ans, presque.
Plus de 30 ans.
Et comment pourriez décrire ce marché ici?
Très populaire, très accueillant. La clientèle est très sympathique, les gens sont très conviviaux, c'est familial, on se connaît tous.
Vous confirmez, Fatima ?
Le lien, il n'est jamais rompu.
Tout au long de notre rendez-vous sur la place du marché de l'Épeule, vous nous raconterez votre Roubaix, Fatima, celui des difficultés, mais surtout celui de l'entraide qui en découle. Ici, c'est une donnée essentielle. Vous ne serez pas toute seule pour nous en parler. On rencontrera ce gérant d'hôtel qui accueille des personnes sans abri. On fera aussi la connaissance d'une réalisatrice qui a consacré un formidable documentaire aux femmes de Roubaix. Et à l'heure de l'apéro, on dégustera des hachards sur des airs d'accordéon. Mais avant, on écoute Renversé, le dernier titre d'Émilie Loiseau, un choix de notre programmateur en chef, Chewbacca.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner. Est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé. Quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire, devant lui se tient un miroir, son reflet de bain. Tu ne sais plus dire si tu dors. Devenu un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. La tout en tête du cortège. Ton enfant qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi.
Vous écoutez France Inter, c'est rendez-vous place du marché à Roubaix, dans le quartier de l'Épeule. On s'est installé à la terrasse du café Le Badja. El Badja, ça veut dire quoi, Fatima ?
Le Badja, ça veut dire la merveilleuse.
Nous sommes toujours en compagnie donc de vous, Fatima Sahraoui, une figure du quartier. D'ailleurs, le temps de traverser le marché, bah, vous avez été interpellée 3 fois. Vous êtes aujourd'hui famille d'accueil. Vous recevez des enfants dont les parents sont en difficulté. À côté de vous, Aïssa Kerifa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes travailleur social et on a à côté aussi, à votre gauche, une roubaisienne d'adoption, Christelle Sabarotte. Bonjour.
Je peux vous corriger ? Sabarotte, on prononce le S au bout.
Voilà, parce qu'en fait, au départ, vous êtes basque. C'est pour ça que vous me corrigez.
Ah oui, parce que dans le sud-ouest et au Pays basque, on prononce toutes les lettres. À l'inverse de ce qu'on fait dans le nord, on en prononce une sur deux.
Alors Christelle Sabarotte, aujourd'hui vous vivez ici, vous êtes sophrologue. Quel regard vous portez sur Roubaix ?
C'est une ville assez fascinante. Un peu fatigante par moment.
Pourquoi fatigante ? Qu'est-ce qui vous fatigue ?
Y a plein de difficultés, il y a plein de gens qui vivent dans des conditions difficiles. Et je trouve que c'est une ville qui peut provoquer une forme d'inquiétude générale sur comment vont les gens, comment ils vivent. Mais en même temps, il y a plein d'élan de solidarité, plein de groupes. Ce que font Fatima et Aïssa en permanence dans l'année. Ça donne aussi plein d'espoir. Donc parfois, on s'enthousiasme sur ce qui se passe à Roubaix. Parfois, on se désespère. Et c'est un peu les montagnes russes comme ça, régulièrement. Je crois que c'est un peu fatigant.
C'est une ville tout en contraste. Vous, Aïssa Kerifa, vous vous revendiquez comme un fervent défenseur de Roubaix. Qu'est-ce que vous aimez tant ici ?
J'aime ma ville, j'aime les gens de Roubaix. Roubaix, elle a 1000 facettes à découvrir. Roubaix, soit on l'aime, soit on la déteste. Donc il n'y a pas de juste milieu. Et comme disait Christelle, voilà, elle a sa richesse. Sa richesse, c'est l'humain, en fait. Voilà. C'est l'humain. Moi, je suis engagé depuis à peu près 20 ans dans ma ville. J'ai vu cette solidarité nulle part ailleurs. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une grande tristesse, une grande paupérisation.
Il faut rappeler qu'ici, une famille sur deux vit avec moins de 1000 euros par mois, quand même.
Ouais, c'est exactement ça. Et nous, on l'a vu. Et la crise Covid n'a pas fait qu'accélérer les choses. Aujourd'hui, il y a une grande précarité, même chez les familles qui travaillent. Donc, ils ont un salaire. Donc, moi, j'ai des gens qui veulent me voir, me disent, voilà, j'ai un salaire, mais je m'en sors pas. J'ai besoin d'aide. Donc, on fait un colis alimentaire d'urgence parce qu'il faut les dépanner. Il y a souvent 2 ou 3 enfants à charge et c'est très difficile en ce moment. T'as des gens, enfin t'as des familles qui sortent des clous. Je suis connu à Roubaix, donc des gens que j'ai connus quand j'étais gamin rentrent au saut du cœur, font demi-tour. De honte de me voir, de me demander de faire l'argent, je vais les chercher, je les récupère. Non, viens, n'aie pas honte. Un jour, ce sera peut-être moi qui sera de l'autre côté.
Vous et ça, vous faites partie de plusieurs associations. Vous avez évoqué les colis alimentaires. Et de quelle autre façon vous aidez ces familles dans la galère ?
On évolue dans ce qu'on fait dans l'humanitaire. C'est qu'aujourd'hui, je fais beaucoup aussi de l'accompagnement. Donc, d'aide au logement, de la recherche d'emploi, enfin, création de CV aussi, de l'aide de motivation. L'estime de soi, parce qu'on a fait aussi coiffeur solidaire, des esthéticiennes pour donner l'estime de soi, une bonne image des gens qui sont à la recherche d'un boulot.
Ça, c'est important, ça, parce que psychologiquement...
Ah oui, c'est très important. Nous, on l'a fait quand on a fait l'opération coiffure. On a eu 4 coiffeurs ou 5 coiffeurs volontaires, donc bénévoles, sont venus d'une journée, un dimanche. Ils ont coiffé 50 de personnes, dont des étudiants aussi.
Et des fois, c'est encore plus concret, c'est des besoins de meubles pour se loger.
Pendant le premier Covid, je faisais partie d'un, avec Fatima d'ailleurs, du fil solidaire à l'Apple, le fil de l'Apple. On livrait des colis alimentaires chez les familles. Et je suis arrivé dans une famille à l'Alma où la femme était un peu handicapée. Je suis monté déposer ses colis au troisième étage. Je suis rentré dans son appartement et j'ai constaté qu'il y avait un matelas. Elle avait une fille. Et je lui ai dit, vous avez que ça comme meuble? Elle m'a dit oui. Donc du coup, sur ma page Facebook, j'ai fait un appel aux dons. Et j'ai, au bout de trois semaines, j'ai récupéré un frigo, une machine à laver, deux lits, un ordinateur, enfin plusieurs meubles. Et on a remeublé son appartement avec Samir et d'autres copains.
Et c'était gratuit ou?
Non, c'était gratuit avec l'aide du Secours Populaire, Francine, qui m'a donné un grand coup de main. On a remeublé sa maison, son appartement. Voilà.
Fatima Sahraoui, beaucoup de gens comptent aussi sur vous. Il paraît que votre secret, c'est la tchouka. C'est quoi?
La tchouchouka en fait, ouais, tchouchouka. Nous on a partagé beaucoup, en fait je faisais partie d'un jardin en fait dans mon quartier et on faisait souvent des repas, Christelle a été invitée, Aïssa et tout ça. Tous les samedis on partageait nos repas.
Mais la tchouchouka c'est quoi? C'est une soupe?
Non c'est pas une soupe, c'est des oignons cuits, une ratatouille, voilà. Avec du pain, ouais, du pain. Voilà. Donc, tu vois, on mange, tout le monde on mange dans la même assiette, on partage. Et quand on voit les sourires des gens, de nos amis en face de la table, on se dit bah ça y est c'est réussi quoi. Ils ont pu oublier leurs soucis pendant un moment et un vrai partage en fait.
Mais quand vous voyez ces gens déguster vos tchouchoukas, vous dites quoi?
Moi je me sens heureuse tout simplement. Le sourire quand je sais que les gens ils sont venus avec un regard fermé, ils repartent avec un sourire, je dis ben, c'est bon, la journée elle sera bonne pour eux et pour moi. Parce que j'ai vu tellement de douleurs comme il parlait à Issa pendant le confinement. Lui il s'occupait des étudiants et l'année dernière. Moi j'ai connu beaucoup de sans-papiers dans le quartier, voilà j'en connais. Et j'ai fait connaissance avec beaucoup de sans-papiers. Il y avait même des familles qui vivaient dans des caves. Des caves avec les toilettes dedans, la douche dedans.
Avec des enfants, des familles avec enfants?
Avec enfants, ouais. Et j'ai su encore ces familles, je les suis. C'est l'élan du cœur qui parle, c'est pas moi, c'est plus fort que moi. Je réfléchis pas, même si je suis obligée en fait. J'ai été élevée dans ces valeurs. Et mon père aussi, quand il est devenu en France, il est devenu en 48. Et il a subi des choses que... Déjà, lui a subi, nous on a subi, nos enfants ils subissent. La génération future a subi. Je veux dire, il faut qu'on on arrête. On doit être au même pied d'égalité. On est français. Liberté, moi j'ai connu à l'école liberté, égalité, fraternité. Mais la fraternité aujourd'hui, je la ressens plus en fait. En moi, elle est plus là. Pourtant, je suis née place du Général de Gaulle. J'habitais rue de la République et je me dis, elle est où cette solidarité en fait?
Bah, c'est vous qui incarnez un peu avec justement Aïssa et Christelle Sabarot. Ouais. Vous êtes sophrologue. Vous travaillez beaucoup auprès des enfants du quartier. Est-ce que ces enfants ont des problèmes particuliers liés à leurs conditions de vie?
C'est exactement ce que viennent de raconter Fatima et Aïssa. Moi, je rencontre, en fait, je travaille dans tout Roubaix auprès des enfants dans les écoles et dans les collèges. Et la question, en fait, ce sont souvent des. Comment voulez-vous bien travailler à l'école quand il pleut dans votre logement, quand il y a des rats dans l'appartement, quand vous habitez à 7 dans deux pièces? C'est pas possible. En fait, moi, je pense que c'est vraiment une ville qui a besoin de plus qu'ailleurs. Vous comprenez? Bien sûr, il y a la solidarité, il y a ce que les gens font eux-mêmes, ce qu'on arrive à mettre en place pour se soutenir en tant qu'individu. Mais c'est une ville où je trouve que l'État devrait plus faire. Parce que ici, on prend en pleine figure tout ce qui se passe partout. Ça me rappelle une anecdote. Un jour, j'étais dans l'école de mes enfants et la directrice recevait des gens pour inscrire les gamins à l'école. Et elle est sortie et elle me dit, tu vois ce qui se passe à Roubaix? On regarde la télé, on voit partout dans le monde des conflits, des guerres, des catastrophes. Et ben, on sait que quelques semaines plus tard, c'est nous qui allons les récupérer. Et là, en l'occurrence, il y avait eu un cyclone dans les Antilles. Et les gens qui avaient tout perdu dans les Antilles, eh ben, ils débarquaient à Roubaix.
Comment vous l'expliquez, ça, qu'ils arrivent ici?
Voilà, c'est une ville qui a une histoire d'immigration. Et je pense que quand on a tout perdu là où on est, on va peut-être spontanément dans un endroit où on a un ami de la famille qui a déjà immigré, etc. J'imagine que c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il arrive ici des populations hyper fragilisées qui ont vécu des conflits, des guerres, qui vivent dans des conditions terribles. Et donc, oui, moi, ce que je rencontre dans mon travail au quotidien, c'est des enfants qui ont souvent pas de soutien des services publics de l'État. Et l'école, c'est l'endroit où on peut repérer ces difficultés-là. Et voilà, et dans les écoles, eh ben, y a des instits incroyables qui tiennent des gamins à bout de bras, quoi. J'ai rencontré l'autre jour un instit qui a dans sa classe un petit garçon, voilà, dont l'appartement, il pleut, il y a des rats, etc. Et le gamin, eh ben, il n'arrive pas à lire, à écrire, il n'arrive pas.
Il a quel âge d'enfant?
Il a 10 ans, mais il est hyper fort en sport. Mais vraiment, c'est, et l'instit, il voit bien que le gamin, il a un potentiel dans le sport énorme. Et donc, il bataille avec ça, avec la maman, qui elle est débordée par les ennuis qu'elle a, les trois gamins, l'appart pourri, la recherche de qui est toute seule et tout ça. Et l'institut, il est prêt à payer la licence. La mairie donne 50 euros pour que les enfants fassent, puissent avoir des licences de sport, des choses comme ça. Il lui dit, on va faire ça, et le complément, c'est moi qui vais le payer. Vous voyez, les écoles, c'est un endroit dont il faut prendre soin, je pense. Par exemple, quand l'État a supprimé les emplois aidés, ce sont les écoles, et à Roubaix, c'est dramatique, la façon dont ça s'est répercuté. Il n'y a plus une secrétaire dans les écoles de Roubaix, il n'y a personne pour ouvrir la porte. Et par exemple, un enfant qui a besoin d'aller chez l'orthophoniste, c'est une demi-heure une séance d'orthophoniste, et ben, il doit rater quasiment toute la matinée d'école parce qu'il n'y a personne pour aller ouvrir la porte pour qu'il revienne après sa séance d'orthophoniste. Moi, c'est ça que je vois, et je trouve que les habitants ont beau être solidaires, ont beau mettre en place des tas d'actions pour la nourriture, le logement, etc., c'est quand même une ville qui a besoin de plus, je pense, qu'ailleurs, parce qu'elle prend en charge plus que d'autres villes où il n'y a pas toutes ces difficultés-là, quoi.
Vous disiez tout à l'heure que Roubaix peut être une ville fatigante, parce que c'est vrai que c'est pesant, ces difficultés. Vous pourriez déménager si vous vouliez. Pourquoi vous restez ici ?
Quand je rentre de vacances en septembre, tous les ans, on se dit oh, « qu'est-ce qu'on fout là ?»
Et alors ?
Ah, il y a pas de nature, il fait gris. Mi-septembre, il faut déjà rallumer le chauffage. Voilà, mon Dieu. Alors voilà, moi je viens du pays.
Vous êtes sadomaso ou quoi ?
Non, ça nous traverse souvent l'esprit. Et je me suis rendu compte un jour que, en fait, j'ai un peu peur d'aller ailleurs.
Pourquoi ?
J'ai peur de m'ennuyer. On s'ennuie jamais, quoi, ici. Nous, on vient de soit du Pays Basque, soit d'Auvergne. On n'a aucune famille ici et on s'est jamais senti isolé. Dès qu'on a eu des enfants, on a tout de suite trouvé des gens qui pouvaient nous filer des coups de main. On n'a pas de grand-mère à proximité qui peut nous les garder en catastrophe et tout ça. Il y a toujours quelqu'un de disponible pour filer un coup de main. Et ça, moi, je sais que ce sera toujours plus difficile ailleurs. Et donc, on se dit, peut-être quand on sera vieux, on retournera dans le sud-ouest et tout ça. Mais je ne suis même pas tout à fait sûre.
Vous restez pour des gens comme Fatima Sarraoui. Vous, Fatima, vous vous occupez des soucis des autres, mais vous-même, vous avez connu des problèmes qui vous ont poussé même à changer de nom. Racontez-nous.
Donc, j'avais un financement pour acheter une maison. Combien de fois j'ai eu des portes fermées, en fait ? Je m'appelais Madame Sarraoui avec S-A-H. Souvent, on me dit S-A-R. Non, c'est S-A-H. J'ai décidé de m'appeler Madame le Prêtre, en fait.
Madame le Prêtre ?
Madame le Prêtre.
Mais pourquoi Madame le Prêtre ? Comment vous avez trouvé ce pseudonyme ?
Madame le Prêtre, je sais pas, je me suis dit peut-être que Madame le Prêtre, ça va parler aux gens. Le est prêtre, vous êtes un prêtre, je me suis dit peut-être Dieu va m'aider, j'en sais rien. Je suis née en France, voilà. Et voilà, j'ai pas la gueule d'arabe, en fait. Voilà, quoi. J'ai su par des agences immobilières que, y a des voisins qui voulaient pas d'arabe, et même si je m'appelais Madame le Prêtre, il y a des voisins qui voulaient pas vendre leur maison à n'importe qui. Et par hasard, en fait, j'étais tellement énervée. Un jour, je suis passée dans une agence à Nugent-le-Bas. J'ai vu une maison rue des Arts.
Et vous avez pu l'acheter, la maison ?
J'ai pu l'acheter. On a négocié au bout de 3 négociations. Et les gens, ils étaient très, très sympathiques. Ils ont dit que nous, on voulait vendre à une famille. Peu importe l'origine. L'essentiel, c'est qu'elle a beaucoup d'enfants et qu'ils soient heureux.
L'histoire s'est bien terminée pour vous, Fatima. Ouais, mais Aïssa Kherifa, ce racisme, parce que c'est de ça dont il s'agit, ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait même des ratonnades à une époque.
Ça, c'est les années 80. Donc, il y a eu les ratonnades, fameuses ratonnades, avec la fameuse milice, les chevaliers de Roubaix.
Les chevaliers de Roubaix ?
Ils étaient en véhicule. Ils cherchaient des jeunes maghrébins. Ils les tabassaient. Et après, nous, avec Saïd Bouamama, qui est un sociologue réputé, on a créé les chameliers de Roubaix.
Les chameliers de Roubaix contre les chevaliers de Roubaix.
Et pour reprendre à ça, donc on allait dans les quartiers pour surveiller nos petits frères, nos petites sœurs, victimes de ratonnades. Du coup, on n'est jamais venu aux mains, mais c'est juste la prévention. Là, on disait, les gars, rentrez chez vous, faites attention, ils peuvent vous ramasser. Mais il y a eu beaucoup de ratonnades, et bien sûr, quand on allait porter plainte chez les flics, voilà, afin de nous recevoir. Voilà.
Alors à Roubaix, il y a ceux qui cultivent les différences, mais il y a aussi ceux qui cultivent le rapprochement, et surtout les fruits et légumes. Une association d'habitants du quartier du Trichon, pas très loin d'ici, est en train de transformer le site d'une ancienne usine en un immense potager au cœur de la ville. Les bénévoles travaillent à coups de bêche pour donner une seconde vie à ce terrain de 7000 m². On a rencontré Pierre Wolf, l'un des porteurs de ce projet. Il était en plein travail.
France Inter, Antoine Lee, rendez-vous Place du Marché.
Ça va, c'est assez meuble ici, un peu moins de cailloux quand même.
Là vous êtes en train de gratter la terre, quoi, le terrain là.
Ouais, je prépare, on va faire des semis.
Il faut réinjecter de la vie, de la matière organique pour le rendre à nouveau fertile.
Quel est le but de la ferme urbaine ?
On est tous au courant que, à la fois, notre mode de développement n'est pas durable pour deux raisons, parce qu'on va dans le mur écologiquement, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité. Et de l'autre côté, on voit bien, et Roubaix en est un bon exemple, à quel point ce mode de développement, il génère des inégalités, des gens qu'on laisse de côté. Le capitalisme est passé, il est passé à autre chose, c'est plus bankable, plus rentable. Donc les gens restent là, à se débrouiller avec peu. On essaye de construire un truc qui pourrait être une autre forme de développement et qui soit à la fois dans le sens de la transition et dans retisser du lien ici, redonner de l'autonomie, fabriquer de l'entraide avec les gens qui sont ici, voilà, autour, qui sont là, en train de, pour certains, en train de pelleter.
Il y a votre collègue qui a fait une grosse découverte, c'est quoi ?
Ça, c'est un oryctre, c'est un coléoptère.
C'est énorme, ça fait quoi ? C'est de la famille des scarabées et ça fait 5 cm.
La famille des lucanes cerfs-volants. C'est un effet de faire du compost, de ramener du bois de broie, etc. Bah, c'est qu'on crée des conditions propices à des animaux qu'on n'avait pas anticipés, mais qui du coup courent sur le bras d'Antoine. Ce qu'on peut dire, c'est que la nature est bonne mère. C'est-à-dire quand on crée les conditions, quand on arrête de tout péter, assez vite, les choses reviennent. Là, j'ai une brouette de cailloux. Bah, le projet, c'est enlever les pierres là pour pouvoir semer des semis de l'engrais vert sur le terrain.
Et ça, c'est des pierres naturelles ou c'est des pierres qui ont été apportées par l'homme qui...
Non, là, regarde, c'est ça, c'est de la brique. Ça, c'est un morceau de sol. Ça, c'est du béton.
C'est pas naturel du tout, quoi.
Non, c'est pas naturel. Il y avait une usine ici. Il y avait une dalle. Il y avait donc tout ça a été pété par des pelleteuses. Le projet était de faire du logement, et donc ça reste en friche.
C'est hyper physique ce que vous faites, Céline.
Ça défoule, ouais.
Vous, Céline, vous allez faire quoi dans ce projet de ferme urbaine ?
Moi, j'aimerais pouvoir réellement cultiver par la suite les légumes, donc être maraîchère sur le site, et pouvoir aussi faire bénéficier de mon travail aux personnes du quartier. Ce sera assez chouette.
Pierre Wolf, quel est le projet avec les légumes que Céline et d'autres vont faire pousser ici sur ce terrain ?
Eh ben nous, on a envie de trouver deux maraîchers, maraîchères qui se disent « Bon, ça va, je peux tenter l'aventure ici de produire des légumes » et qu'il y ait des gens autour qui s'abonnent à cette ferme urbaine.
Des riverains, hein ?
Oui, des riverains autour, qui descendent de leur appart, qui viennent ici. Comme ils sont abonnés, ils peuvent venir ramasser chaque jour ce dont ils ont besoin. Il y aurait écrit un tableau. Céline, par exemple, aurait écrit « Aujourd'hui, on peut ramasser 1 kilo de courgettes, 3 salades. Vous pouvez prendre aussi un petit peu de petits pois et des radis. » Et voilà, on a le droit de ramasser ça, on rentre chez soi, c'est ultra court, ultra bio.
En fait, Pierre Wolf, le projet, ce n'est pas que cultiver des légumes, c'est aussi cultiver du lien humain.
Ici, là, de loin, on a parfois l'image de Roubaix, d'un espèce de Far West, je ne sais. On est là avec des gens de bonne volonté qui viennent creuser le sol dans une diversité sociologique, pour le dire comme ça, que je n'ai jamais rencontré ailleurs. Moi, je trouve que c'est ce pouvoir de faire ça, c'est déjà un luxe. Donc voilà, c'est réjouissant.
Chan-chan le daba pena.
C'était Buena Vista Social Club avec Chan Chan. Vous écoutez France Inter, rendez-vous place du marché est à Roubaix dans le Nord. On est toujours au milieu des clients et des commerçants du quartier de l'Épeule, en compagnie de Fatima Sarraoui, Christelle Sabarotz et Aïssa Kerifa, tous les trois habitants de Roubaix. Trois autres invités nous ont rejoints. El Hadji Goradiop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le gérant de l'hôtel Formule 1 de Roubaix. Vous avez accepté sans hésitation qu'une grande partie de votre hôtel soit réquisitionnée par la préfecture du Nord pour loger des sans-abri. Mais avant, on va accueillir Brigitte, bonjour.
Bonjour.
On vous voit dans un documentaire extrêmement fort réalisé par Nadia Boufarkas. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Et pour vous dire la vérité, avec Irène Menahem qui m'a aidé à préparer l'émission, on a été très émus en regardant votre film. Vous vous êtes intéressé à l'association Mélissa, une épicerie solidaire de Roubaix. Mais en fait, on assiste à un espèce de huis clos entre des femmes cabossées. Comment vous est venue l'idée de faire ce documentaire ?
À la base, le film, ça s'inscrivait dans un dispositif pédagogique. Et dans la préfiguration d'une école qui s'appelle La Pépinière, une école de cinéma documentaire de création à Roubaix. Il y a eu un an de formation. Un an, on les a bien fait chier. Brigitte a l'habitude, parce qu'on a quand même une histoire commune. Brigitte, c'est un ancien personnage d'un film précédent qui s'appelle Ness, qui a été réalisé il y a une vingtaine d'années. Voilà. À l'époque, elle n'était pas encore grand-mère. Elle était toute belle.
Je suis encore belle. Hein.
Elle est toujours belle.
Je confirme, hein, Brigitte.
Allez,
bon, alors, Nadia. En tout cas, cette formation est devenue un film que vous avez appelé « T'as pas une gueule à foie gras ». Vous, Brigitte, vous êtes l'une de ces femmes qu'on voit dans ce film. Pourquoi vous avez accepté d'être suivie pendant des mois par la caméra de Nadia ?
Bon, déjà, c'est une histoire d'amour entre moi et Nadia. Oh, une belle histoire d'amour, d'amitié. Ça a grandi, je l'ai connue toute jeune. Automatiquement, moi, Nadia, quand je peux, quand elle me demande quelque chose, quand je peux le faire, je le fais. Voilà, je sais ce qu'elle vaut, je sais ce que ces films vaut.
Parce que c'était pas évident quand même de vous livrer, vous raconter des choses très, 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 parfois difficiles même.
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai totalement confiance en Nadia.
Et ce film, en fait, porte sur cette épicerie solidaire. C'est un lieu très important pour vous, qui a compté pendant des années, qui vous a accompagné pendant des années.
Huit ans, j'ai participé, j'ai donné mon temps. Il y a eu des rires, des pleurs, des bons moments comme des mauvais moments. Et du coup, au bout de 8 ans, j'ai trouvé un travail où j'ai été embauchée, donc je ne pouvais pas dire non.
Mais aujourd'hui, votre situation s'est améliorée ?
Un petit peu plus, oui, bien sûr, elle s'est améliorée. J'ai un salaire qui rentre régulièrement à la maison.
Puis vous gagnez combien par mois, par exemple ?
1041 euros. Mais ça me suffit, je fais 32 heures semaine et voilà. Moi j'ai mes enfants qui me le rendent bien aussi, ils travaillent, c'est pas des fainéants, j'ai toujours été derrière eux. Je suis maman qui a élevé les enfants tout seul, mais je suis une battante aussi en même temps. Avec tout ce qui se passait autour de nous, pour ça, quand ils ont créé l'association, je me suis investie à fond.
Et ça vous apportait quoi cette association, quand vous étiez dans la galère ?
Bah beaucoup, hein, des pleurs, des rires, parce que quand on va au petit déjeuner le mardi matin, bah c'est aussi pour se vider. On déjeune, mais on se vide. Il y a une maman qui a des problèmes avec son enfant, donc elle explique. Il y a une autre maman qui est avec son mari, l'autre, son fils est incarcéré, l'autre, son fils est dans la toxicomanie. Voilà, il y a beaucoup qui font... Ah ouais.
Il y a une parole qui est libérée dans ce documentaire, et à un moment, vous parlez des hommes, et on peut dire que les hommes prennent cher.
Bah ouais, moi je dirais, j'ai pas besoin d'hommes pour vivre.
Parce vous êtes sûr ?
Ah oui ! Ah oui !
Non, c'est un peu dommage pour nous. Mais...
Non, mais un petit casse-croûte. On va dire un petit casse-croûte. Mais j'ai pas besoin. Moi, j'ai donné 17 ans de ma vie à un homme. Au final, j'ai rien gagné. Que du mauvais. J'ai élevé mes enfants tout seul avec ma maman, grâce à Dieu. Et je veux dire, donc, comme j'étais le père et la mère, donc j'ai réussi à élever mes enfants dans le droit chemin. Enfin, j'ai essayé de faire ce que je peux. Moi, j'ai pas besoin d'homme. Moi, je fais tout à la maison. Je fais mes courses, je monte mes courses, je déballe, ma voiture elle en panne, j'appelle un mec, j'ai changé une roue, voilà.
Et c'est ce qui frappe dans ce film, c'est ce lien qui vous unit toutes, ces femmes fortes, quoi.
C'est la solidarité. Quand vous voyez des mamans qui sont pas bien, automatiquement, vous les prenez dans vos bras, je sais pas. Parce que peut-être que vous êtes passé par là, peut-être que vous l'avez évité, je sais pas.
Elles sont très proches les unes des autres et elles s'irriguent les unes les autres. Mais ça reste aussi, en fait, elles sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont quand même le fruit d'une histoire. Et on est dans une ville qui est Roubaix, avec une histoire qui est celle de l'industrie du textile. On est dans un contexte qui est celui de la désindustrialisation. Par exemple, aux yeux des médias, les rencontres ou les témoignages ou les personnes, en fait, que l'on rencontre dans nos films, eh bien, ne les intéressent pas. Leur histoire est trop banale pour pouvoir mériter d'être racontée. Brigitte, son papa, je pense qu'il a travaillé à l'usine. Moi, mon papa a travaillé à l'usine. On est le fruit de cette histoire-là.
Christelle Sabarotte, vous, il se trouve que vous étiez journaliste à la télé. Nadia en parlait. Aujourd'hui, vous êtes au milieu de ces femmes. Vous qui avez connu ce regard dans les médias, et aujourd'hui, vous qui êtes parmi ces femmes, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Nadia ?
Ah ben je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nadia. C'est-à-dire que ces toutes petites choses, enfin, vous voyez, des gens qui se rassemblent pour prendre un petit déj ensemble, évidemment que ça va pas dans les médias, même régionaux, même locaux. En soi, c'est pas intéressant. Il se passe rien de spectaculaire. Et pourtant, c'est ça qui construit l'identité d'un quartier, d'une ville. Roubaix a quand même l'inconvénient majeur d'avoir une espèce d'image comme ça, hyper négative dans les médias. Quand il se passe un truc, voilà, c'est la ville où on imagine que c'est la zone, la violence, voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est très frappant de constater que dans les médias nationaux, quand il se passe un truc, je sais pas, un fait divers quelconque, dans les villes limitrophes, on dit toujours que c'est à Roubaix que ça se passe. Ça peut se passer à Waterloo, je sais pas où, c'est toujours à Roubaix. S'il se passe un truc super à Roubaix, on va dire que c'est à Lille.
Nadia Boufferkas, vous cherchez un diffuseur pour votre film. En tout cas, on a eu un gros coup de cœur. C'est l'occasion d'entendre des paroles rares et pourtant si universelles. Et Nadia, si vous cherchez une idée pour votre prochain film, on vous la sert aujourd'hui sur un plateau. Elle est à côté de vous, à votre gauche, en la personne de El Hadji Gora Diop. Tout le monde vous appelle El Gora. Vous êtes le responsable de l'hôtel Formule 1 à Roubaix. La préfecture du Nord a réquisitionné 80% de vos chambres pour accueillir des sans-abri et des demandeurs d'asile. Ça représente combien de personnes ?
Nombre de chambres, je dirais 80% de mon effectif et plus d'une centaine de personnes sur l'hôtel.
La préfecture vous a sollicité le temps de la trêve hivernale. Cette trêve a été prolongée.
De sources officieuses, ça doit se prolonger jusqu'à fin août.
Lorsque la préfecture vous a contacté, vous êtes dit quoi ? Lorsqu'elle vous a dit on a besoin de vos chambres.
Je dois remonter à plus loin. C'est une histoire d'amour qui me lie avec ces personnes dans la précarité. Ça fait depuis 2000 que je suis à la tête de cet établissement, l'hôtel Formule 1. Et ça a commencé par le SAMU social, la CMAO, qui est la cellule mobile d'accueil et d'orientation des personnes sans domicile. Ça a commencé par une, deux, trois, quatre chambres. Et ensuite, ils se sont rendus compte que ça se passait bien dans mon hôtel, qu'ils entraient défigurés, complètement abîmés, et ils en ressortaient un peu mieux. Et donc, j'étais dedans. Et la crise, quand elle est arrivée, la réquisition, ça m'a pas fait peur. J'ai accepté le plus naturellement du monde.
C'était une évidence pour vous ?
C'était une évidence, voilà.
Votre hôtel, c'est un Formule 1. Les Formule 1 appartiennent au groupe Accor. Quelle a été la réaction du groupe ? Ça a été facile ou il a fallu que vous battiez un petit peu avec votre direction ?
Accor n'a jamais été d'accord pour qu'on communique sur cet aspect. En fait, dire...
Pour quelle raison ? C'est plutôt positif.
C'est plus que positif, puisque les pères fondateurs du groupe Accor, à savoir Gilles Pélisson et M. Debrulle, c'est des originaires du Nord. C'est eux qui ont créé le groupe Accor. Et le premier hôtel qui s'appelait Nouveau Hôtel, qui a changé de nom en devenant Novotel, c'est des messieurs qui sont dans l'humanitaire, qui traversent le monde. Et sachant que moi, à Roubaix, j'ai une population qui est comme elle est, une ville difficile, eh bien, je ne pouvais pas ne pas les accepter. C'est un hôtel qui n'est pas situé à Cannes, encore moins à Nice, c'est Roubaix. Donc si je ne les prends pas, qui c'est qui les prendrait ? C'est pour ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est que vous-même, vous habitez avec votre famille dans cet hôtel, au premier étage, dans un petit appartement. Vous vivez au milieu de ces personnes dont on parle.
C'est une population, entre guillemets, difficile. Pour les gérer, c'est une vigilance au quotidien. Difficile de par le fait qu'ils soient un peu déstructurés, qu'ils soient un peu en marge. Donc moi, j'ai pris le pari d'habiter avec eux. Ils me côtoient, ils me voient au quotidien et c'est là que je leur apporte un peu plus d'humanité, un peu plus d'aide, et ce qui a fait que bon, on m'a qualifié même de travailleur social alors que je suis gérant d'hôtel.
Quel parcours type des locataires que vous avez dans votre hôtel ?
Les résidents que j'ai, c'est des sans domicile, SDF, des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques et des personnes seules, isolées. Il y a des maisons à Roubaix que la municipalité a déclarées insalubres. Et du fait de la pandémie, comme il fallait les mettre en confinement, eh bien, ils les ont placées à l'hôtel.
Christelle Sabarotz, vous connaissez bien l'engagement d'Elgora, car vous faites partie du restaurant coopératif Baraka, qui propose des repas suspendus justement aux pensionnaires du Formule 1. Il s'agit de quoi au juste ?
C'est une idée qu'on a eue pendant le confinement, quand on a dû, enfin là, on ne sait plus les combientièmes, mais enfin, c'est plus, c'était en novembre ou en décembre, quand on a pu faire que de la livraison à vélo ou bien de la vente à emporter. Une copine qui habitait très très loin nous a suggéré l'idée de proposer des repas à acheter qu'on allait distribuer à des gens qui en avaient besoin parce qu'elle habitait loin et donc elle n'allait pas pouvoir venir les chercher, ces repas. Et on s'est dit, ben oui, c'est tout bête. Donc sur notre site internet, on a proposé aux clients, même lointains, d'acheter des repas suspendus et on a cherché à qui on allait pouvoir les distribuer. On avait entendu parler de ce Formule 1, donc j'ai téléphoné à Eladji, je lui ai dit voilà, on a cette idée-là, on va proposer à nos clients d'acheter des repas suspendus, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous les livre? Et il a dit, ouh oui, voilà, je prends tout ce qui est... Et donc, on ne sait plus bien compter combien on en a livré, mais je sais pas mal, hein, 500, un truc comme ça, des centaines, ouais. Et ça a du sens, en fait. Nous, ça a permis à ce restaurant coopératif qui a vraiment souffert de ces différents confinements, fermetures et ouvertures à moitié, de continuer à avoir une activité. Et en même temps, ça de donner des repas de qualité. C'est une coopérative où on cuisine tous les jours des produits frais, bio, locaux au maximum, où on soutient les fournisseurs. Ça a permis aussi de soutenir le travail des maraîchers qu'on soutient. Et donc, tout ça était un cercle très vertueux qui se poursuit, je précise. Donc, sur le site de la coopérative baraka.fr, on peut encore acheter des repas suspendus et on va continuer. Il n'y a pas de raison qu'on arrête. Et puis, on appellera Eladji pour voir s'il a besoin ou pas.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui payent le repas et qui les offrent à des gens qui en ont besoin.
C'est ça. Vous achetez un repas, vous venez pas le chercher. Et c'est, vous savez, c'est le principe des cafés suspendus. Dans certains cafés, on pouvait acheter un café et puis ne pas le consommer. On le mettait sur une ardoise et puis quelqu'un en difficulté vient, dit est-ce que je peux avoir un café? Il est offert par un client précédent.
Eladji Goradiop, vous comprenez vos pensionnaires et les acceptez bien volontiers car vous-même, vous avez connu le même parcours qu'eux.
Oui, quelqu'un a parlé de mon parcours en le jugeant d'atypique. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait du journalisme, j'ai fini hôtelier, comme quoi Sciences Po mène à tout, à condition d'en sortir. Et voilà quoi, donc moi, le parcours, il est d'autant plus atypique que quand j'ai eu la visite de la sous-préfète de Roubaix, je lui ai soufflé dans le creux de l'oreille, madame la sous-préfète, vous vous rendez compte, en 87, votre homologue m'avait invité à quitter le territoire.
Parce que vous venez du Sénégal?
J'étais devenu sans papier du fait que j'avais plus mon titre de séjour. Et je dis, en 2021, je vous reçois dans mon établissement, vous venez rendre visite à des sans papier, des personnes dans l'irrégularité. Et moi, je suis là à les aider, à leur parler de mon parcours, de ce que j'ai vécu, en leur disant qu'il ne faut jamais désespérer tant qu'il y a vie, il y a espoir, et qu'il faut tout faire pour se mettre dans la légalité. Ça ne sert à rien de se cacher, de sortir tous les matins, la peur dans le ventre. Il y a des moyens de s'en sortir légalement.
Vous, Eladji Goradiop, vous êtes né au Sénégal, vous êtes venu en France pour étudier les sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Ensuite, vous êtes venu ici, dans le Nord, pour devenir journaliste. Mm-hmm. Et à un moment, vous n'aviez plus vos papiers, le droit de rester sur le territoire français. Et donc, vous étiez sous le coup d'une expulsion. Mm-hmm. Et vous avez même été placé à la prison de Loos.
Tout à fait. Étant en situation d'irrégularité, sous le régime de Pasqua, pour le nommer.
En 1987,
voilà. J'ai pas accepté la décision du préfet que j'ai attaqué au tribunal administratif de Lille, qui m'a débouté. J'ai porté l'affaire auprès du Conseil d'État, la plus haute juridiction de ce pays, qui m'a donné gain de cause. Et c'est un arrêt qui fait jurisprudence. Il y a pas mal d'avocats qui m'ont appelé. Et donc, ils ont débouté le préfet pour abus de pouvoir. C'est pas rien. Et depuis, je fais mon chemin hôtelier. J'y suis arrivé par la force des choses. J'étais avant Night Audit dans des hôtels Ibis. J'ai fait tous les hôtels Ibis de la région. J'ai travaillé Roubaix, Lille, Villeneuve-d'Ascq. Et c'est là qu'un directeur d'alors m'a demandé de prendre mon hôtel à moi et de le gérer. C'est en 2000, j'ai pris le F1 de Roubaix. Et quand je l'ai pris, bah, j'ai fait le pari de l'ouvrir à tout le monde, de pas faire de sélection, d'autant plus que c'est pas une ville où on vient visiter beaucoup de choses. Le textile n'est plus ce qu'il était. Il y a eu des délocalisations, des unes qui ont fermé, mais c'est une ville qui vit.
Mais quelle ironie de l'histoire. Vous avez été placé en détention, vous étiez un délinquant, hein, hors la loi, et aujourd'hui vous êtes gérant d'hôtel.
Ben, voilà, c'est dire qu'à force de se battre, à force de croire en certaines valeurs, des valeurs de justice, j'ai un ami qui me dit « j'ai fait Sciences Po, je suis devenu restaurateur, j'ai laissé le journalisme, la seule chose que j'ai pas fait comme vous, c'est la prison ». J'ai dit « je dirai comment faire pour y aller ». Bon, en fait, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a certaines situations, quand on est dedans, on fait avec le cœur, on fait avec les tripes, on compte pas son temps et on voit pas l'argent. Moi, le travail que je fais comme hôtelier, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. Et avec mon épouse et mes enfants qui logent avec moi sur place, sur l'hôtel.
Il y a votre femme à côté de vous qui dit, avec tout ça, vous gagnez pas beaucoup d'argent. Hein.
Je gagne pas énormément, mais je m'en sors pas mal. Je me plains pas, honnêtement. Show love like there's nothing left to lose. Be unbroken, struggling with these blues. Take my love and send it into space. A twist a knife into my back and run. But sometimes it's just standing still, stops moving like a manga will. It don't amount to much, blazing on an ounce of dust. Been there, done that, lost the bloody t-shirt. I face neglect and now my teeth hurt. I'm happy for the blue skies in the morning, happy for the breath inside my lungs and for these legs that keep me walking. Happy that my heart is still beating, I'm happy that I'm finally eating. I'm happy that I got to speak to you this evening. I'm happy that you're happy too. I'm working hard, I found a lot of spirit in this lonely yard. But I'm happy that I'm finding my feet. People think I'm strong, but I'll admit that I'm weak. Cause in dark days you need to comfort yourself. You need to be kind, choose love, look after your health. I guess I got it wrong, a couple twists and turns ago. Sometimes it turns out you just need to learn to grow. I like the cherry blossom falling from these spring trees. It gives me air to breathe, it gave me love to choose. And I'm serious about my dreams, to live good, to live clean and to be free. I guess it's time to let you go now. I watch you fly but I still catch you when you float down. Oh!
C'était Slumb accompagné de C.W. Jones avec Come On, Get It.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine.
On est toujours à Roubaix sur le marché du quartier de l'Épeule. C'est l'heure de l'apéro. Sur notre table, on a des choses qui donnent vraiment faim. Comment ça s'appelle ça, Fatima Sahraoui?
Ça s'appelle le harcha. C'était un petit déjeuner, en fait. C'était une petite galette de semoule pour le déjeuner le matin. Donc là, ils auraient visité, ils ont mis des olives, du persil, et ça se prend en apéro avant le repas du midi. Donc, tout simple, en fait, c'est pas cher, et c'est pour toutes les bourses et pour tous les goûts, tout simplement.
Christelle Sabarotte, est-ce que c'est bon?
Ouais, c'est bon. Ça a un petit côté un peu sucré-salé. C'est un peu sucré quand même, mais il y a les olives qui donnent du salé, c'est pas mal.
El Hadji, Gora Diop, c'est bon?
C'est bon, on sent bien le goût du persil et ça fait bien pour l'apéro.
Je vous propose de prendre un morceau et de me suivre. On va aller au parc du Bron de Loire. On va rejoindre une artiste étonnante, Laure Chailloux. Elle nous a demandé de la rejoindre là-bas car il paraît que la vue est imprenable. Alors là, on traverse le marché.
Allah, 4 euros chaud.
Bon, bah, c'est un marché très animé, il y a des fruits un peu partout qui ne sont pas chers comme nous l'a dit Fatima Sahraoui.
1 euro la pastèque, 1 euro la pastèque.
À gauche, il y a un poissonnier avec vraiment de beaux poissons. Là, on passe devant un marchand qui vend des CD de musique orientale. Là, il y a un autre commerçant qui vend de la menthe. Sûrement pour faire du thé à la menthe. On arrive au parc du Bron de Loire. On monte une petite côte pour arriver au sommet d'une butte. Et là, on tombe sur Laure Chailloux. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous n'avez pas trop chaud là?
J'ai pris un petit coup de soleil sur le front, je crois.
Pourquoi vous avez voulu qu'on vienne vous rejoindre ici sur cette butte?
Parce qu'ici, on est à 10 mètres du marché et pourtant, on est complètement sorti. On est à 7 mètres de hauteur. Et en fait, c'est toute l'histoire de Roubaix qui surgit à travers les toits. Est-ce qu'on y voit? Quand on regarde à droite, évidemment, on a le stade de foot, incontournable toujours. Mais un peu plus loin, on a une vieille bâtisse un peu sombre. C'est le couvent des Clarisses qui a failli être détruit. Puis des habitants se sont mobilisés. Et d'ailleurs, on y rencontre Tata Guylaine qui a créé les cabas du sourire. Alors, ils ont le caddie, ils vont glaner dans le marché et ensuite, ils vont faire une distribution. En bas à gauche, on a des jardins ouvriers. On peut rencontrer Abdelkader qui jardine son jardin tous les jours et j'adore parce que quand on le croise avec ses petits yeux pétillants, il dit moi j'ai 91 ans et ça fait 24 ans que je n'ai pas acheté une seule graine. Tout ce qu'il plante, c'est avec sa production. Quand on regarde là-bas un peu à la droite, on voit la mosquée Bilal et juste en premier plan une grande cheminée. Enfin, ça continue comme ça. Il y en a beaucoup.
Un joli poste d'observation.
Oui, magnifique.
Vous êtes une artiste qui vous appuyez beaucoup sur les lieux dans lesquels vous êtes.
Voilà, j'aime bien faire des histoires sonores ou des paysages sonores, c'est m'appuyer sur ce qui nous entoure. Alors quand on est dans la lumière, quand on donne le noir, quand on est dans des endroits acoustiques qui résonnent beaucoup, ou quand on est sous la terre, on ne fait pas la même musique, on ne ressent pas les mêmes choses.
Vous avez pu jouer dans des endroits incroyables, donnez-nous quelques petits exemples.
Bah, notamment à Roubaix, parce qu'à Roubaix, il y a tellement d'endroits incroyables. J'ai pu jouer à la Condition Publique, qui est un ancien entrepôt lainière, à l'Ancette, qui est une ancienne, qui marche toujours, une école d'ingénieurs textiles. J'ai pu jouer dans le Musée des Flandres, où il y a toutes les machines textiles qui sont exposées. J'ai joué avec les machines en rythmique. J'ai joué dans le centre social de l'Épeule, justement, il n'y a pas longtemps, avec les ramis, avec les tout-petits-enfants. Enfin, il y a moyen de jouer vraiment dans des tas d'endroits très, très, très différents.
Vous avez votre accordéon? Et vous avez accepté de nous jouer un petit morceau?
Non, mais c'est vrai que quand on est ici, finalement, maintenant, la frénésie rythmique des machines se sont arrêtées. Et du coup, bah, dans des endroits comme ça, à la place des usines, il y a un parc et on peut entendre les oiseaux. Et du coup, ça m'a donné cette envie de me jouer cette musique en résonance à la profondeur et la richesse de tous ceux qui aiment cette ville.
Laure Chailloux, on vous écoute. Les oiseaux sont là pour vous accompagner. Merci beaucoup, Laure Chaillou. Alors, l'accordéon, vous avez appris toute seule?
Oui, en fait, j'ai fait un parcours classique au départ de musique classique avec des partitions. Et puis un jour, chez des amis, j'ai croisé cet instrument de musique, l'accordéon diatonique. Et j'ai eu un coup de foudre total. J'ai abandonné les partitions et j'ai appris toute seule. Tout ce que je le compose et je le joue à l'oreille.
Ce qui vous caractérise, c'est que vous faites beaucoup d'improvisation. Vous comptez beaucoup sur l'imaginaire du public.
Voilà, je trouve que c'est un des seuls endroits aujourd'hui où on reste libre. Hein. Donc l'imaginaire, tout le monde l'a, tout le monde peut le développer. Et du coup, en partant d'œuvres d'art, en partant de mots, en partant de paysages, d'arbres, de nature, d'architecture, en fait, on peut vraiment partir dans des grandes histoires qui renvoient à son histoire personnelle et aussi, finalement, une histoire qu'on peut vivre ensemble comme ça en musique.
Dans ce que vous faites, il y a une forme d'engagement, de donner l'accès justement à la musique, à la culture, à tout le monde. C'est pour ça que vous jouez dans autant d'endroits différents.
Voilà. La musique, en fait, on dit toujours que la culture, quelquefois, on rencontre des personnes qui vont nous dire « Oui, mais la culture, c'est pas pour moi ». Et en fait, à partir du moment où on joue avec ce qui nous entoure, avec ceux qui sont là, alors quand on est avec des enfants, des tout-petits, évidemment, on joue pas pareil qu'avec des grands, avec, je disais toujours, la nature, la résonance. Finalement, ce qui nous entoure nous nourrit et c'est vraiment matière de création.
Il y a tout le monde qui est venu, il y a Christelle Sabarotte, Fatima Sarraoui, El Hadji Goradiop qui sont venus vous écouter. On est tous assis dans l'herbe. Il y a même des petits-enfants de je ne sais pas, il doit avoir 5-6 ans qui nous ont rejoints, qui ont entendu votre accordéon. Il y a Aïssa qui fait des petites photos. On est bien là.
On est très bien.
Laure Chaillou, dans une autre vie, vous avez été directrice d'une association et vous avez décidé de tout quitter pour vous consacrer à votre musique.
Oui, je connais très bien le Roubaix parce que j'y ai travaillé pendant plus de 15 ans. Et notamment, effectivement, Lara qui est autour des rythmes actuels. C'est une école de musique dans les années 90 très novatrice parce qu'on faisait du rock, du rap, des percussions du monde entier, d'Herbouka, Conga, Djembe, etc. Et puis c'est vrai que ben voilà, j'ai travaillé 10 ans, mais à un moment donné, il fallait vraiment que je revienne à la musique et pas toujours en parler, mais vraiment la ressentir et la faire partager.
Merci à tous, merci au Café Le Badja pour son accueil, merci aux Délices du Maghreb, c'était un régal. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, Irène Menahem m'a aidé à la préparer. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et demain, vous retrouvez Aurélie Fèze à Carpentras.